Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, j'ai envie de continuer de parler de la relation dans les oasis, dans les collectifs, à travers la question de la confiance, parce que c'est une question centrale de mon point de vue. Parce que ce qui nous agite très souvent relationnellement au cœur de notre quotidien collectif, c'est bien cette question de la confiance. D'autres diront que c'est tout ce qui est lié à la peur, qui crée des dysfonctionnements relationnels et sociaux. Et effectivement, à petite échelle, lorsque l'on vit dans un collectif, on peut le valider d'une certaine manière parce que au quotidien, c'est la question de la confiance qui va se poser. Pour tirer le fil de cette question de la confiance, je fais le lien avec ce qui constitue mon sujet de prédilection, à savoir le développement de l'enfant, la manière dont nous vivons et dont nous nous constituons quand nous sommes un enfant. Et en passant par l'éthologie, toujours par cette science sociale qui étudie les comportements humains ou les comportements d'une espèce dans son milieu naturel, il y a une chose qui me frappe, c'est que quelque part, l'être humain est câblé sur ce qui est prévisible. Ce qui est prévisible nous rassure, nous permet de nous développer, nous épanouir, nous ouvrir au monde de manière sécure, tandis que nous avons beaucoup de difficultés à accueillir l'imprévisible. Ce qui est prévisible dans la nature, biologiquement, c'est que lorsque nous naissons, il va y avoir un certain environnement qui va se mettre en place autour de nous. Il va y avoir comme des protocoles ou des processus d'évolution qui sont stimulés par des conditions prévisibles autour de nous. C'est comme si il y avait une partie du scénario de nos histoires qui est déjà écrite potentiellement et qui devrait se dérouler telle que nous l'attendons. Nous attendons à ce que les personnes qui nous accueillent au monde soient des personnes bienveillantes, soient des caregivers, c'est-à-dire qui nous donnent des soins appropriés à notre développement et à nos besoins. Nous nous attendons à être réchauffés, nourris, portés, entourés, réconfortés, aimés. Nous nous attendons à ce que, lorsque nous avons un besoin, quelqu'un vienne répondre à ce besoin de manière rapide et appropriée. Si je suis un petit bébé et que j'ai peur, je m'attends à ce que quelqu'un vienne me prendre dans les bras, me réconforter. Et c'est même extrêmement inscrit dans ma biologie parce que si j'ai peur et que personne ne vient, je n'ai même pas les moyens de désactiver vraiment mon amygdale cérébrale qui s'est allumée suite à un stimulus traumatisant comme un bruit énorme ou une douleur dans mon corps ou peu importe quel stimulus et qui fait que j'ai peur. Je suis terrorisée, je me mets à hurler parce que mon amygdale cérébrale envoie l'impulse à mon cerveau qu'il y a quelque chose d'anormal ou d'inquiétant qui nécessite un appel à l'aide. Et c'est le seul moyen que j'ai à ce moment-là, quand je suis un tout petit bébé, pour préserver mon intégrité. C'est face à un danger ou une menace. Mon amygdale cérébrale s'active, envoie l'information à mon cerveau qu'il y a quelque chose qui pourrait menacer mon intégrité, déclenche un processus de stress, donc des hormones qui vont se diffuser dans mon corps et des émotions qui vont provoquer des pleurs. Si personne ne vient à mon secours, la biologie n'est pas en mesure, a priori, de calmer ce stress par une forme d'autonomie. À ce moment-là, c'est vraiment le recours et le secours d'un tiers bienveillant, rassurant, qui va me permettre de retrouver mon calme. Alors, les éthologues le savent, on le sait dans la théorie de l'attachement, dans toutes les observations et les protocoles expérimentaux qui ont été faits, nous permettent de conclure que si un enfant, de manière récurrente, un petit bébé, n'a pas de secours, donc il est abandonné à lui-même et à son stress, il va développer un attachement insécure qui va bien sûr s'inscrire en lui de manière durable. C'est ce qu'on appelle les modèles internes opérants, c'est-à-dire les croyances fondamentales que nous inscrivons vont vraiment dans notre biologie, dans nos cellules, de manière très profonde et qui laissent à penser que l'autre n'est pas un recours fiable, l'autre n'est pas forcément là pour moi et que donc je dois par exemple développer un attachement évitant et apprendre à m'autonomiser par moi-même, mais c'est toujours quelque chose de souffrant. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences dans le développement de mes compétences relationnelles, affectives et sociales. Donc ce n'est pas anodin, c'est considéré comme pathogène, cet abandon, cette absence de recours à un tiers lorsque l'on en a besoin étant bébé. Donc tout ça pour dire que cette prévisibilité, elle est vraiment très profondément inscrite dans notre fonctionnement humain, et sans doute pas seulement humain. Parce que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles. On s'attend à ce qu'il y ait l'hiver, et puis qu'après l'hiver, il y ait le printemps, et puis qu'après le printemps, il y ait l'été. En tout cas, dans nos régions qui sont marquées par les saisons, on s'attend à ce que le soleil se lève tous les matins. On s'attend à ce qu'après la pluie, le soleil. On s'attend à ce que l'arbre, il donne des bourgeons, puis des fleurs, puis des fruits. Et tout est scénarisé dans un sens qui est au service de la vie, en fait. Et qui permet à tous les cycles vivants qui coexistent sur Terre de se compléter, de satisfaire les besoins vitaux des uns et des autres, des unes et des autres, des espèces, afin que tout ça chante la symphonie du vivant finalement, que ce soit l'harmonie vivante qui puisse se déployer sur la Terre. Chez l'humain, effectivement, il y a quelque chose qui va passer par la conscience de, petit à petit, la conscience de ce qui était prévu arrive ou ce qui était prévu n'arrive pas. Et le paradoxe, c'est que dans la vie, il y a plein de choses qui n'étaient pas prévues et qui arrivent, y compris dans la relation. Lorsqu'on se marie avec quelqu'un, on n'a pas prévu qu'on allait finir par peut-être même se détester et s'envoyer des assiettes à la figure ou se retrouver chez un juge pour décider de qui va garder l'enfant ou à qui est l'armoire normande du salon. Donc ça, c'est pas prévu, même si c'est quelque part prévisible statistiquement. Lorsqu'on est dans un état amoureux, dans l'idéalisation de ce qu'on va pouvoir vivre avec une personne aimée, la première chose qu'on prévoit, c'est pas qu'on va finir par se déchirer et se détester. Pourtant, ça arrive tellement souvent. Lorsqu'on prévoit de vivre dans une oasis, dans un collectif, dans un écolieu, ou même lorsque l'on prévoit d'œuvrer dans une association, eh bien très souvent c'est pour nourrir des besoins satisfaisants, c'est-à-dire obtenir plus de qualité de vie, plus de joie, plus de coopération, plus de solidarité, plus de générosité, plus de créativité. On est porté souvent par des idéaux aussi de réparation ou de retrouver une vie plus épanouissante. Dans les oasis, on déplore souvent la façon dont le monde capitalo-industriel a pris place dans nos vies et dans nos sociétés, avec tous les dégâts qu'il commet, et avec les dégâts qui sont des dégâts environnementaux, mais sociaux, géopolitiques, mais aussi avec des inconvénients très forts sur la qualité de nos vies au final. Tout ce qui est autour de la malbouffe, du stress, de la compétitivité, du manque paradoxalement, parce que beaucoup de personnes manquent de temps, manquent de qualité de vie, manquent d'amis, manquent de joie, manquent d'argent même, parce que on est dans une vie qui est de plus en plus contraignante au niveau financier, malgré tous les progrès qui devaient nous apporter beaucoup de confort de ce côté-là, du côté matériel, et bien finalement on se rend compte que c'est chargé d'inconvénients, cette vie moderne aussi. Et donc, on va se projeter dans des modèles différents qui devraient nous apporter autre chose. Donc ça, c'est le côté prévisible de tel projet. On s'attend à ce que de tels projets, comme vivre dans un écolieu avec des personnes qui ont des pensées affinitaires avec les nôtres, vont forcément, c'est ce qu'on prévoit en tout cas, gagner en qualité de vie, gagner en qualité relationnelle, gagner en joie et en bonheur. Et finalement, cette attente peut être déçue. Ce que j'observe ici, c'est vraiment le côté systématique de ce schéma propre à l'humain, qui a été largement remis en question, dénoncé et rebattu par les philosophes, par des penseurs et aussi par le développement personnel, hein, parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire face à ce réflexe de rechercher le prévisible. Et une des manières de faire face, c'est de réinvestir l'espace du présent, qui est le seul espace connu finalement, vraiment, parce que bah, le passé il est souvent très interprété et puis le futur il n'est pas encore connu, donc l'espace du présent est vraiment la seule chose qui nous est vraiment offerte à 100%. Mais quand on se projette dans un objectif de vivre ensemble, de construire ensemble, de designer un lieu où il va se passer beaucoup de projets, donc beaucoup de choses que l'on imagine aujourd'hui et qu'on doit mettre en œuvre pour que ça arrive demain, dont un projet social, un projet relationnel, un projet affectif aussi, qui est de sortir de l'isolement, qui est de vrai ensemble, qui est de coopérer, qui est d'obtenir plus de solidarité, d'entraide, de joie à être ensemble, eh bien, ce prévisible, effectivement, pourrait être déçu. Il va l'être invariablement parce que de l'idéal à la réalité, il y a un gap immense qui va forcément poser la question de qui est responsable de la réalisation de cet idéal. En fait, il y a plusieurs questions. Il y a qui est responsable de la réalisation de cet idéal? Qui est-ce qu'on va noter à la fin? À qui on va donner les bonnes notes et les mauvaises notes? Et surtout, comment est-ce que je vais faire face à mes déceptions et à mes frustrations? Ce que j'observe, c'est que lorsqu'on arrive dans un lieu collectif porté par un idéal, qui est souvent représenté par une charte éthique, par des documents collaboratifs, où l'on a mis en mots ce que l'on voulait vivre ensemble, et souvent c'est beaucoup de l'écologie, du prendre soin, de la coopération, de la bienveillance, de la solidarité, de la générosité, de l'accueil, de la qualité de vie, du bien-être, du bien-vivre. Bien sûr, c'est tout ça qui est déposé sur le papier et qui est partagé ensemble. Et c'est ce qui fait qu'on a des étoiles dans les yeux aussi quand on commence un projet. Voilà, ça scintille, ça pétille, on a envie d'y aller parce qu'il y a quelque chose de prévisible qui nous attend et qui est réjouissant, qui nous permet de nous projeter dans quelque chose de différent ou dans la continuité de choix que nous avions faits auparavant et qui chacun se mérite parce qu'il faut les incarner, nos choix. Soit on incarne nos choix, soit on se laisse porter et guider par le présent et par ce qui se passe autour de nous. Mais on se rend compte que de plus en plus, comme on est en désaccord avec la proposition mainstream, dont on voit les conséquences sur soi et sur l'environnement et sur les autres, alors, on décide d'être plus acteur, donc de prendre les choses en main et de dessiner un petit peu plus notre destin collectif en nous engageant dans des projets qui sont réfléchis et pensés pour résoudre un certain nombre de problématiques. Et dans ce prévisible, bon, effectivement, il y a des choses qui sont plutôt assez simple à mettre en œuvre, même si elle demande beaucoup de travail. Bon, bah, faire un jardin maraîcher pour nourrir le collectif, c'est un peu une question de moyens et de motivation et de persévérance, en quelque sorte. Y compris pour construire des maisons écologiques. Là, moi, je me suis promenée un peu dans les oasis ces derniers temps et souvent, les gens construisent de très belles maisons avec des performances énergétiques donc qui font que dans l'hiver, on va brûler qu'une ou deux stères pour une maison de 120 mètres carrés. Et c'est merveilleux. Donc, ce sont des maisons qui sont construites avec des matériaux sains et dans lesquels il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Donc, ça, c'est. J'ai envie de dire, n'importe quel citoyen qui a les moyens sur son compte en banque, qui arrive. C'est vraiment aujourd'hui, en 2020 passé, ce serait vraiment extraordinaire de ne pas réussir à construire une maison passive parce que toutes les capacités techniques sont rassemblées, sont disponibles. Donc il y a le prévisible matériel qui lui est assez facile à honorer, mais c'est jamais de ce côté-là que le collectif est en difficulté quasiment. Enfin, C'est assez rare, même si par voie de conséquence, les questions relationnelles peuvent réveiller des questions financières, des questions matérielles. Le démarrage d'une difficulté ou d'un conflit ou d'un malaise dans un collectif, c'est jamais cette question matérielle, c'est toujours et invariablement le relationnel. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue relationnel qui nous met dans une telle difficulté? Mais ce que j'observe, c'est que ce qui permet à un collectif de fonctionner harmonieusement le plus possible, c'est un ingrédient essentiel. C'est vraiment le sel de la relation, c'est la confiance. Un groupe, pour fonctionner harmonieusement, doit avoir un très haut niveau de confiance des individus les uns envers les autres. Alors, je le pose comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut vivre. Parce que avoir cette haute exigence dans un niveau de confiance, ça a un énorme inconvénient. C'est que lorsque la confiance baisse, voire lorsque la confiance disparaît, le projet est dans une immense difficulté et les relations sont mises à mal. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nous réagissons spontanément à la confiance et comment cette confiance, elle est liée à cette caractéristique qui est la nôtre de vouloir que tout soit prévisible. Confronté à une autre caractéristique qui est celle du vivant, où tout est en mouvement en permanence et que finalement il y a aussi un haut niveau d'imprévu qui s'impose au quotidien. C'est toujours le dialogue entre ces deux parties de nous, celle qui s'attend à ce que tout fonctionne comme on l'attend et qui est confortable avec ça, et celle qui doit faire face à l'imprévu et qui bien souvent est assez inconfortable avec cette partie. Comme si nous n'avions pas intégré une composante essentielle qui s'appelle l'adaptabilité, ou la capacité à relativiser et à accueillir, en fait, ce qui est. Lorsque la confiance s'éteint dans des relations interpersonnelles, dans un groupe, et bien souvent il y a des conséquences immédiates, individuelles et collectives. Parce que il y a quelque chose en nous qui a peur de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va faire. Il y a quelque chose en nous qui a peur d'être incompris et donc que nos besoins ne soient plus nourris, plus satisfaits par le groupe. Et comme on a beaucoup investi dans cette vie collective et quelque part elle est contraignante, elle comporte un certain nombre de contraintes. Ça veut dire que je ne peux pas forcément m'en extraire d'une manière fluide. J'ai donné quelque chose de ma liberté en rentrant dans un collectif. Parce que dans ce collectif, il y a ma maison, il y a ma famille, il y a mes enfants qui jouent avec les enfants des autres, il y a mon petit écosystème vivrier. Voilà, c'est la maison où l'endroit, la terre où je me nourris, où je travaille aussi parfois. Il y a aussi des collectifs comme le nôtre où il y a plusieurs travailleurs qui ont leur outil de travail sur place. Donc il y a mon économie qui est liée à ce collectif. Il y a mon cercle social, il y a mes amis, même s'il y a des gens peut-être avec qui j'ai plus confiance ou que je n'apprécie pas. Il y a aussi tous ceux que j'apprécie et qui me mettent en confiance, donc qui nourrissent des besoins fondamentaux de mon existence. Et donc renoncer à tout ça ou reprendre ma liberté par rapport à tout ça, c'est compliqué. Je suis attachée à ce collectif, en fait, plus ou moins. Et c'est pour ça que la forme de l'attachement est importante aussi. Nous avions, je ne sais plus en quelle année, autour de 2017, rencontré trois jeunes qui démarraient leur démarche de conscience après avoir vu le film Demain. Des jeunes qui sortaient d'une grande école, je ne sais plus si c'était HEC ou Normale Sup ou quelque chose comme ça, et qui avaient vu le film Demain et qui étaient déjà dans des processus de création de start-up et de participer à ce fabuleux monde moderne pour lequel ils étaient formés et qui avaient un peu tout envoyé balader comme c'est le cas de certains jeunes en ce moment qui sortent de grandes écoles et qui étaient partis pour faire un tour des collectifs pendant 12 mois, 12 collectifs, un mois par collectif si je me souviens bien, et qui étaient passés par le hameau des Buis, donc notre premier éco-village, et qui avait cheminé ainsi de collectif en collectif pour essayer de comprendre quel serait le meilleur moyen d'œuvrer dans le sens de la création d'éco-lieux, mais de manière sécure. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils étaient revenus en disant, il y a une chose essentielle pour nous, c'est la mobilité. c'est de faire face à cette question de la contrainte et de ne plus, ou le moins possible, contraindre des gens qui ne s'entendent plus à vivre ensemble. Et ces jeunes sont devenus les fondateurs de l'association À mots légers, qui est basée en Bretagne maintenant, et qui développe l'idée que la meilleure manière de faire collectif ensemble, c'est d'être, de redevenir nomades en quelque sorte, potentiellement, c'est-à-dire de vivre dans des habitats qui sont entièrement réversibles, des yourtes, des tiny house, des habitats démontables. Alors, ils recherchent évidemment aussi la performance énergétique qui souvent est absente de la tiny house ou de la yourte, pour avoir néanmoins des habitats réversibles mais qui soient transposables dans d'autres lieux, afin que les personnes qui les occupent puissent partir facilement, que ce soit léger, le plus léger possible. Donc, après avoir fait leur tour des écolieux, la donnée fondamentale qui leur est vraiment restée inscrite profonde comme une nécessité dans la réussite de cette nouvelle société hein, qu'on essaye de construire, c'est vraiment, pour eux, c'était vraiment quelque part lutter contre la contrainte de rester ensemble lorsqu'on ne s'entend plus. Donc ça a été vraiment très intéressant comme donnée. Et ça pose la question de comment on fait face chacun intérieurement à ce qui peut se passer à l'extérieur de nous et qui est indépendant de notre volonté, mais qui vient bousculer cette notion du prévisible qui est profondément inscrite en nous. Donc c'est presque effectivement une question philosophique, hein, ou presque métaphysique, parce que on est forcément questionné sur notre rapport à la vie et notre rapport évidemment à nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque quelqu'un qui est face à moi, je croyais que c'était un voisin, que j'allais beaucoup apprécier, avec qui ça allait être convivial, qu'on allait se nourrir affectivement, mutuellement. Et puis, je me rends compte que il fait des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il a des comportements qui ne me plaisent pas, qui me heurtent, qui me blessent ou qui me déçoivent. Et donc, mon rêve d'harmonie sur un lieu est grignoté par cet inconvénient. Et le réflexe un peu archaïque, mais néanmoins très vivant chez chacun de nous, c'est de faire le reproche à l'autre de ce qu'il est à ce moment-là, ou de la façon dont il se comporte. Et de considérer que l'autre devient presque un préjudice dans ma petite histoire bien confortable, bien douillette, que je m'étais écrite en venant vivre dans ce collectif idéal où on pratique l'écologie, on est tous ensemble, on refait le monde, on rebâtit la société de demain, où nos enfants sont libres et heureux, où il y a des animaux, il y a des jardins, il y a de la beauté dans l'environnement, de la coopération, du partage. Et puis là, hop, il y a un individu ou une individu qui a des comportements que j'apprécie pas, qui me blessent, qui me font peur, qui m'inquiètent, qui me sont désagréables. Et cette personne se permet de venir comme une tache sur mon tableau. Et là, je perds la confiance petit à petit, parce que si les comportements sont récurrents, si la personne se confirme dans ses comportements qui me dérangent, eh bien je vais perdre la confiance en lui, peut-être aussi perdre la confiance dans le projet, me dire, ah bah oui, finalement, c'est pas l'idéal de ce que j'aurais aimé vivre. Et puis je me rends compte que j'étais venue pour avoir du soutien. Et les autres, ils sont tous très occupés. Et le soutien que j'attendais, je l'ai peut-être pas autant que ça. Et j'étais venue pour avoir des amis. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal à me lier parfois avec les uns les autres. Finalement, ce sont des liens qui peut-être manquent de spontanéité parce qu'on est tous venus pas pour être amis, au départ on est venu pour partager un même idéal et finalement on se retrouve ensemble. J'étais venue pour vivre de manière beaucoup plus écologique avec un certain niveau d'exigence à cet endroit-là et puis je me rends compte mais j'ai des voisins, ils mangent même pas bio quoi. J'ai des voisins qui font des quantités d'emballage, qui commandent chez Amazon ou qui prennent la voiture pour un oui ou pour un non alors qu'ils pourraient bien prendre le vélo. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Je suis déçue. Et puis, sans compter ceux qui prennent l'avion pour aller à l'autre bout du monde 3 fois par an. Et puis, j'étais venue pour avoir plus de joie, en fait, dans mon quotidien. Et je m'aperçois que c'est pas si simple non plus, la joie, parce que tout ça, ça me fait pas mal ruminé. Je me questionne sur mes choix, sur est-ce que je suis dans le bon lieu avec les bonnes personnes. Et puis ce lieu, il est tellement demandant. C'est des quantités d'heures bénévoles que je dois lui consacrer. Alors que j'ai quitté un monde où j'étais sursollicitée dans mon temps, dans mon énergie, ma capacité de travail. Et puis voilà que le lieu dans lequel j'arrive, il me demande tellement d'efforts pour être ce lieu vivant que nous espérons tous obtenir au final. Voilà, il faut s'occuper de tout, quoi. Il n'y a personne pour se substituer à cette responsabilité. D'autant plus que on essaye de s'autonomiser au maximum. Donc, waouh, l'autonomie a un prix. Et je m'en rends compte aussi. Voilà, donc entre l'idéal attendu qui constitue dans mon cheminement ma réflexion, le prévisible et la réalité, bah forcément, il y a un écart où va se loger le doute, où va se loger l'insécurité, où va se loger la remise en question. Et parfois, le renoncement aussi, ça va jusque-là. Donc, d'une manière générale, il y a cette divergence entre le réel et ce que nous avions imaginé, et encore plus peut-être dans le relationnel. Et c'est beaucoup par le relationnel que les choses vont passer, parce que relever des défis lorsque on est en harmonie les uns avec les autres, en confiance, en amour les uns avec les autres, avec un haut degré d'affectivité, ça va, parce que l'être humain est ainsi fait que lorsqu'il y a de la solidarité, de la coopération, on est prêt à soulever des montagnes. Et on le fait, on le fait. Lorsque je vois qu'au au début, en 6 ans, on a construit et réhabilité presque 2000 mètres carrés de bâtiments de manière amateur, avec pour la plupart d'entre nous de la nouveauté parce qu'on n'avait jamais fait ça auparavant, ben je me rends bien compte que ensemble et lorsqu'on marche d'un même pas dans une direction, serait-ce un idéal, hein, on a une capacité qui est décuplée. Et on est capable de se lever tous les matins, 365 jours par an quasiment, pour aller sur un chantier. Donc ça, c'est pas là que se loge la difficulté. C'est vraiment lorsque il commence à y avoir des tensions entre humains que là, il y a tout qui s'effondre, quoi. Il y a tout qui s'écroule. Donc l'ingrédient majeur, c'est la confiance. C'est la confiance que nous avons. Maintenant, ce que je voudrais observer, c'est où est-ce qu'elle est cette confiance? Où est-ce que je la mets? Dans quoi j'investis ma confiance? Comment je place mon capital confiance? Parce qu'effectivement, si cette confiance, je la confie à l'autre, en disant, bon, bah, je te fais confiance, hein, tu vas être quelqu'un qui ne va pas me décevoir, qui ne va pas me frustrer, qui ne va pas me contredire, qui ne va pas me contrarier. Quelle mission? Et puis d'ailleurs, qui va accepter une mission pareille? Donc, où est-ce que je place ma confiance? Alors je peux la placer en moi, cette confiance-là, et me dire bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Et je suis prêt à changer de chemin et à renoncer à ce projet si ça ne remplit pas, ça ne satisfait pas mes attentes et mes besoins. Déjà, je pense que c'est une attitude un peu plus responsable et un peu plus réaliste que d'aller placer sa confiance chez l'autre, chez les autres. Même si j'admets qu'il faut évidemment un degré de confiance indispensable, que d'ailleurs j'exprime dans mon livre, Et si nous redevenions humains, parce que ce que je raconte dans ce livre, c'est que au fond, j'ai la confiance qu'un humain, c'est une personne positive, que c'est une personne adaptée au vivant, qu'un humain est un être qui a un haut potentiel de caregiving, d'être bon et empathique et utile pour les autres au plus haut degré qu'il soit. Donc cette confiance dans l'humain, moi je l'ai. Et en même temps, je sais très bien qu'un humain blessé, qu'un humain insécure, qu'un humain traumatisé, il va avoir des comportements qui sont juste difficiles pour sa communauté et pour lui-même. Et que lorsqu'on crée un collectif, eh ben on va avoir une biodiversité humaine. et que parmi les humains de ce groupe, il va forcément y avoir des gens avec qui je suis confortable, avec qui je suis en affinité, avec qui j'ai une grande confiance, et d'autres personnes avec qui ça va pas coller ou qui vont avoir des comportements qui me dérangent, qui me bousculent, qui m'inquiètent, donc qui vont réveiller des peurs. Donc comment je fais pour gérer ça et pour ne pas surenchérir dans des interactions qui vont devenir potentiellement conflictogènes? Comment je fais pour ne pas alimenter ce potentiel de conflit qui est disponible, qui est à l'évidence incontournable lorsque nous avons affaire à un groupe humain dans sa biodiversité? Mon expérience, c'est que tant que je confiais la responsabilité de mon niveau de confiance à l'autre, aux autres, au groupe qui m'entoure, eh ben, je me mettais systématiquement en difficulté. Dans le sens où, ben, lorsque cette confiance était trahie, ben, à chaque fois, il y avait quelque chose de mon monde qui s'effondre en même temps. Et une incitation à l'agressivité. Parce que lorsqu'on est déçu, frustré, eh bien, on va faire le reproche de cette déception, de cette frustration, voire plus hein, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent violenté par des comportements, alors on va se sentir légitime de stigmatiser l'autre ou de le rendre responsable de l'inconfort qui nous fait vivre en fait, et des conséquences qui sont lourdes parce que ça remet en question le petit monde idéal, joyeux, pour lequel j'ai tant investi de moi, de mon argent, de mon temps, de ma liberté. Donc c'est lourd sur les épaules des autres, cette confiance qu'on met en eux. Et aujourd'hui, mon invitation, c'est vraiment de reprendre à soi cette confiance. C'est-à-dire, je ne fais plus mon placement chez l'autre, mais je le fais davantage chez moi. Et je reprends aussi mon pouvoir de créer et d'agir pour nourrir cette confiance. Lorsque quelqu'un fait des choses qui me dérangent, ben c'est sûr qu'il va y avoir chez moi des réactions émotionnelles, un inconfort, peut-être un ras-le-bol parfois, peut-être de la déception, de la tristesse. Voilà, j'accueille tout ça, je prends tout ça chez moi, en moi, pour faire mon petit tri, mon petit marché là-dedans et regarder ce qui reste d'important. Lorsque je prends tout ça chez moi et je ne vais pas m'empresser d'aller le déverser sur la tête de l'autre, quoi. Donc, quelqu'un fait quelque chose qui me dérange profondément, qui me déplaît, qui nuit à mon harmonie, plutôt que d'aller chez lui pour tout de suite me précipiter à le lui faire part de ça, eh bien, je rentre chez moi et je vais faire mon petit marché, mon petit tri avec tout ça. Ressentir, voir quels sont les besoins qui ont été bousculés, pourquoi, comment. Comment je peux faire autrement? Quelle est ma demande juste, en fait, exacte, que je pourrais déposer chez l'autre, vers l'autre, pour que il puisse éventuellement contribuer à m'être agréable, s'il le veut, s'il le souhaite, si c'est à sa portée, si c'est dans ses possibilités, et si ça colle avec ses propres choix, ses propres besoins. Par exemple, moi, dans mon besoin d'harmonie, il y a l'idée que il y a besoin de quelque chose d'authentique dans les relations pour que les relations perdurent avec le plus haut niveau de confiance possible les uns envers les autres. Et donc c'est vraiment ce qui va permettre ça, c'est vraiment la confiance que chacun nourrit en soi parce qu'on est insécure, un manque de confiance, bah, oui, il y a un affolement, une forme de panique intérieure qui va faire que on va aller vers les autres et pour faire valoir notre besoin de confiance, mais d'une manière qui est maladroite, avec des exigences, avec des procès d'intention, avec des reproches. Et ça va juste créer l'inverse de ce qu'on veut. Parce que ça va fermer des portes plutôt que d'en ouvrir, lorsqu'on va vers l'autre avec cette charge-là. En revanche, si je prends soin du niveau de confiance dont j'ai besoin à l'intérieur de moi, avec la conscience que la seule chose que je peux vraiment maîtriser, qui est vraiment prévisible, encore que on se surprend nous-mêmes intérieurement à avoir des réactions qu'on ne maîtrise pas. C'est ce qui se passe en moi et le pouvoir personnel que j'ai sur ce qui est. C'est tout ce que j'ai entre mes mains, en fait. Le reste ne m'appartient pas. Bien sûr qu'il y a des domaines de nos vies qui vont assez peu trahir notre besoin de prévisibilité et de confiance. Par exemple, Il y a très peu de chances que dans une vie humaine, on ne voit pas le soleil se lever le matin ou qu'on ne voit pas le printemps suivre l'hiver, bien qu'aujourd'hui encore, il y a des questionnements par rapport à ça, mais ou que si je travaille la terre, eh ben, je vais obtenir des légumes qui vont me nourrir. Tout ça, c'est la fiabilité de la nature et de l'environnement, de cette condition terrestre qui est la nôtre et qui est extrêmement bien, bien organisée et qui, du coup, constitue un grand espace où la confiance peut se déployer. Donc ça, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça que la reconnexion à la nature et à la terre est tellement fondatrice, parce qu'elle nous permet justement de retrouver de la confiance et de l'assurance que les principes de vie sont respectés et que si on les respecte nous-mêmes, eh bien, il y a vraiment moyen de mener notre existence avec une certaine fiabilité et de faire baisser l'intensité de nos peurs, quoi. Donc que la nature soit un recours aujourd'hui, c'est extrêmement juste. En revanche, pour ce qui concerne les relations les uns avec les autres, nous les humains, ben oui, c'est d'abord cultiver tout ce que je peux cultiver de confiance en moi pour que lorsque je vais vers l'autre avec des choses à lui dire sur ses comportements ou sur les besoins chez moi qui sont bousculés par ses comportements, ben j'ai tellement un confort de confiance à l'intérieur de moi que ce que je vais formuler, ça sera dans la bienveillance et avec la confiance que ben, si la personne, elle ne peut pas répondre à ce qui me serait confortable ou agréable, ben, peut-être je vais trouver d'autres stratégies pour nourrir les besoins qui sont bousculés par ce qu'elle fait ou par ce qu'elle est ou par ce qu'elle dit. Mais aussi, j'ai beaucoup plus de chances et d'opportunités d'être entendue dans mes demandes si je les formule à partir d'un endroit qui est dans la confiance. Si je suis vraiment envahie par les peurs, l'insécurité, le malaise, la souffrance que ça vient réveiller, ces comportements qui me sont désagréables, bah, il y a beaucoup plus de chances que la personne ne les reçoive pas. Parce qu'elle va se sentir peut-être accusée, dévalorisée, agressée, sous domination. Elle va se sentir dépréciée, culpabilisée. Si je dis à une personne, ben voilà, on est venu ici pour vivre dans une grande harmonie, on est en train de peindre un tableau magnifique, et puis toi, avec tes comportements, tu fais des taches sur ce tableau, c'est terrible, quoi. Mais si on lui dit, écoute, vraiment, j'ai beaucoup de joie à être là dans ce projet avec chacun d'entre nous, et en même temps, j'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose qui est compliqué pour moi, et j'aimerais savoir comment ça a commencé pour toi. Et voilà, je lui ai expliqué, ben voilà, quand il se passe ça, ben moi j'ai vraiment, voilà, ça me questionne, j'ai vraiment des doutes sur est-ce qu'on peut ensemble nourrir et coopérer dans une direction harmonieuse avec ces faits-là ou ces comportements-là. Est-ce que toi tu serais d'accord pour regarder ça avec moi et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est important là-dedans et qu'on fasse le tri ensemble et qu'on voit comment chacun peut transformer éventuellement. Et là, on est souvent très surpris parce que on croyait qu'il y avait vraiment quelque part en arrière-fond un coupable et une victime. C'est que la personne qui fait quelque chose, ben, on a cru peut-être qu'elle le faisait contre nous ou qu'elle le faisait exprès ou qu'elle était fondamentalement malveillante ou méchante ou je ne sais pas quoi. On a toutes ces croyances en nous parce que ce sont des héritages de notre éducation. Et puis on se rend compte que ben non, en fait, il y a toute une d'autres raisons et d'autres niveaux de lecture et de compréhension qui viennent se révéler lorsqu'on est dans l'échange authentique avec ces questions-là. Voilà, donc c'est vraiment mettre la confiance à un niveau qui n'est pas une emprise sur l'autre ou les autres, mais qui est vraiment comme un art de vivre ou un état d'être en soi. Et la confiance, elle peut être que entre nos mains, en fait. On ne peut pas la mettre entre les mains des autres. Elle est chez nous. Et lorsque cette confiance grandit en nous, ben elle grandit aussi dans nos compétences relationnelles. Elle va venir nourrir nos compétences relationnelles. Elle va venir nourrir la qualité de nos vies, la qualité de nos relations, la qualité de nos interrelations. Et elle va nous permettre de mieux accueillir l'imprévu. C'est aussi surtout ça. C'est que par rapport à ce côté prévisible qui est attendu par l'humain et notamment le jeune humain, le paradoxe, c'est que plus le bébé et le jeune humain ont reçu de prévisibles, c'est-à-dire plus ils ont eu un caregiver qui a répondu de manière rapide, appropriée aux besoins du petit, donc de manière prévisible. Et plus le niveau de confiance est haut, et plus il habite la personne. Donc, je dirais même plus on devient adaptable à l'imprévu, compétent face à l'imprévu. Voilà, j'ai fait le lien entre effectivement l'accompagnement de l'enfant et ce que nous devenons en tant qu'adultes dans les collectifs que nous avons envie de faire vivre. La confiance est un sujet central. Peut-être que j'y reviendrai autrement, avec un autre axe. Et en attendant, merci de m'avoir écouté. À bientôt.